Tout de suite, vous retrouvez les informations de France Culture présentées par Antoine Marette et puis vous retrouverez tout de suite après la grande table parce que c'est l'été.
Bonjour à tous. Après une nuit de suspense, c'est désormais officiel, la Pologne rempile pour 5 années de conservatisme. Duda vient d'être réélu chef de l'État. Nous irons en Espagne où la justice vient de suspendre un reconfinement localisé dans une ville de Catalogne. Les autorités régionales avaient pris cette décision en raison d'un rebond des cas de Covid-19. Dans l'actualité française, la première page du Ségur de la Santé se referme aujourd'hui. Les syndicats et le gouvernement sont parvenus à s'entendre au bout de 7 semaines de négociations. Une enveloppe de presque 8 milliards d'euros a été débloquée. Elle servira principalement à augmenter les salaires. Les propos rassurants de Bruno Le Maire ce matin, le ministre de l'économie estime que la consommation est quasiment revenue à la normale et il a donné quelques indications sur le plan de relance économique qui doit être annoncé demain par Emmanuel Macron. C'est désormais officiel. Les Polonais ont choisi de réélire leur président sortant. Le très conservateur Andrzej Duda est arrivé en tête du second tour hier avec 51,2% des voix. Une victoire de peu face au candidat libéral pro-européen. Les Polonais avaient le choix entre la continuité et la rupture. Ils ont donc choisi la continuité pour 5 années supplémentaires. Sur place, les précisions de notre envoyé spécial Ludovic Piétonu.
Andrzej Duda, c'est désormais certain, dispose d'une avance que son adversaire Trzaskowski, le maire de Varsovie, ne pourra pas combler. Même avec les 5 derniers districts de l'étranger qui ne sont pas encore parvenus à la commission électorale. Celle-ci néanmoins s'est montrée très affirmative, sifflant sans attendre la fin de la partie. 51,2% pour Duda qui signe ses meilleurs scores dans les campagnes et les régions de l'Est. 48,8% pour son challenger libéral et pro-européen soutenu dans toutes les grandes métropoles polonaises et les régions de l'Ouest bordant l'Allemagne. 2 Pologne, chacun réunit sur son nom environ 10 millions d'électeurs pour finir avec moins de 500 000 voix d'écart, faisant de ce scrutin le plus disputé de l'histoire de la Pologne, le plus mobilisateur aussi avec un record de 68% de participation. La commission électorale devrait être en mesure d'ici ce soir ou demain, au plus tard, d'annoncer un résultat définitif, point de départ de toutes les contestations. Le camp Trzaskowski prépare des recours devant la Cour suprême. Il dispose seulement de 3 jours pour le faire, contre 14 précédemment, dans une loi électorale qu'a récemment modifiée. Le parti PiS au pouvoir. Des irrégularités encore qui devraient être pointées dès cet après-midi par les observateurs internationaux de l'OSCE. 2 faits graves commis par le camp Duda, dont l'utilisation des moyens de l'État pour faire pression sur les électeurs.
Et Ludovic Piétonu, vous avez interrogé Carolina Kędziora. Elle est avocate à la tête d'une ONG qui défend plus particulièrement les Polonais victimes de discrimination, comme les personnes LGBT qui ont été des cibles systématiques de Duda dans cette campagne. Elle réagit à l'annonce de cette réélection.
Je suis terrifiée parce que j'ai, durant ces 5 dernières années, moi en tant que l'avocate, moi en tant que défenseur des droits de l'homme, j'ai vu que la situation en Pologne a beaucoup empiré. Ce qui est important de dire, c'est que notre démocratie, oui, elle a déjà 30 ans, mais c'est toujours une démocratie très jeune. C'est pas comme en France. On n'a pas une tradition démocratique. On regarde pas vraiment les actions des hommes politiques. On ne regarde pas ce que les hommes politiques font avec des minorités. Moi-même, je suis une personne bisexuelle, je fais partie des minorités en Pologne et je sais très bien que si Duda remporte cette élection, ma vie personnelle va être en danger en Pologne. PiS démolit toutes les institutions qui auparavant allaient pour but de nous protéger, de protéger les droits de l'homme. Il s'agit aussi de personnes non blanches, il s'agit aussi des migrants, il s'agit aussi des personnes de croyances différentes que catholiques. Toutes les personnes qui représentent un modèle différent que blanc catholique sont en danger réel en Pologne aujourd'hui.
En Espagne, le bras de fer entre les autorités régionales de Catalogne et la justice. La justice qui vient de suspendre le reconfinement des habitants de Lérida ordonné hier en raison d'un fort rebond des cas de Covid-19. Le tribunal a estimé que ces mesures sanitaires étaient contraires au droit. À Madrid, les précisions de Pierre Chaperon.
C'est ce qui ressemble à un camouflet pour le gouvernement catalan, alors qu'il avait décidé ce dimanche de confiner la population de la province de Lérida, n'autorisant que les sorties pour aller faire les courses, aller à la pharmacie ou dans un centre médical. La justice régionale s'est opposée à cette mesure. La raison, la mise en place de ce qui ressemble à l'état d'alarme tel que l'a connu l'Espagne entre mars et juin dernier, n'est pas du ressort d'un gouvernement de région, mais bien de l'État, avec validation du Parlement. C'est en tout cas ce que stipule la loi. La justice n'a donc fait que retoquer, comme elle l'explique sur les réseaux sociaux, une décision contraire au droit espagnol. Ainsi, si une région peut réguler le port du masque ou bien le nombre de personnes réunies dans un même endroit, elle ne peut décider de la liberté de mouvement des habitants. Par conséquent, et alors que les cas de la Covid-19 se multiplient dans cette partie agricole de la Catalogne, Barcelone a 15 jours pour répondre de cette décision de justice. Une course contre la montre alors que la province de 200 000 habitants inquiète de plus en plus les autorités.
Après 3 jours de violence, d'émeutes et de saccages qui ont fait au moins 11 morts, un calme fragile règne à Bamako, la capitale du Mali. Les manifestants réclament toujours le départ d'Ibeka, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Leur colère a explosé après que la Cour suprême du pays a invalidé une partie des résultats des législatives qui leur étaient favorables. Sous la pression, le président malien a dissous la Cour suprême. Et il a ouvert la voie des législatives partielles, mais cela reste insuffisant pour l'opposition, Claude Guibal.
Et l'inquiétude, c'est celle des pays de la région qui multiplient les médiations. Ce sont eux hier qui ont poussé le président Ibeka à céder sur la Cour suprême. Ce sont eux qui ont poussé l'imam Diko, la figure tutélaire de ce mouvement de protestation, à appeler ses partisans au calme. Derrière, il y a aussi bien sûr l'inquiétude de Paris et de toute la communauté internationale qui n'a pas oublié que la guerre au Sahel a commencé en 2012, lorsque les djihadistes du Nord Mali ont cherché à descendre sur Bamako pour s'emparer du pouvoir et que c'est sur l'instabilité politique, précisément, qu'ils cherchent toujours à s'engouffrer. La colère qui secoue le Mali est portée par le M5, un mouvement hétéroclite. Il rassemble aussi bien des politiques, des religieux, des membres de la société civile. Cette colère, elle est nourrie par le ras-le-bol face à la mauvaise gouvernance, la corruption, l'économie totalement sinistrée malgré les milliards d'aides internationales versée sur le pays depuis 8 ans, une aide dont les Maliens ne voient que peu la couleur. Il y a aussi la colère politique, l'absence de mise en place des accords de paix qui auraient dû permettre davantage d'inclusivité au sein de l'État et du gouvernement. Or, une déstabilisation du Mali, acteur clé du G5 Sahel, aurait évidemment des conséquences en chaîne. En premier lieu, sur le Burkina Faso, lui aussi contaminé par le djihadisme à sa frontière avec le Mali, et lui aussi dans la tourmente politique à quelques mois des élections, ou encore le Niger, tout cela à un moment clé, alors que l'opération Barkhane, longtemps enlisée, commence enfin à enregistrer ses premiers succès dans la lutte anti-djihadiste.
Il s'agit d'une affaire intérieure, ce sont les mots de la diplomatie russe au sujet de la conversion en mosquée de l'ancienne basilique Sainte-Sophie à Istanbul. Des mots très mesurés après les critiques de l'église orthodoxe russe. Celle-ci avait regretté que l'inquiétude de millions de chrétiens n'ait pas été entendue par la Turquie. Midi passé de 38 minutes sur France Culture. Dans l'actualité française, la première page du Ségur de la Santé qui se referme aujourd'hui avec la signature de 3 protocoles d'accord. Les syndicats et le gouvernement sont finalement parvenus à s'entendre au bout de 7 semaines de négociations. Une enveloppe de presque 8 milliards d'euros a été débloquée. Elle servira principalement à augmenter les salaires. 183 euros nets pour les professions médicales et paramédicales. Les internes vont bénéficier d'une enveloppe de 124 millions d'euros pour améliorer les indemnités versées aux jeunes praticiens. Ils percevront désormais le SMIC horaire, ce qu'ils demandaient depuis longtemps. Bonjour Wafa Kenich.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressé au sort des médecins titulaires.
Alors, pour les médecins hospitaliers, une enveloppe totale de 450 millions d'euros est débloquée. Outre les rémunérations, il s'agit surtout d'augmenter la prime service public exclusif. Cette indemnité est réservée aux médecins qui se consacrent entièrement au service public sans dépassement d'honoraires. Elle passe de 490 euros bruts par mois à 700 euros, une mesure pas assez incitative pour les plus jeunes, selon le docteur Anne-Geoffrey Vernet du syndicat des médecins hospitaliers, anesthésistes et réanimateurs.
On ne valorise pas les jeunes et les milieux de carrière suffisamment pour leur donner envie de rester à l'hôpital public. Et donc ce qui va se passer, c'est une très grande attente sur les décisions du Ségur pour donner envie de rester à l'hôpital. et ces praticiens vont partir.
Ce syndicat refuse donc de signer cet accord qui est validé par trois autres organisations syndicales majoritaires, dont l'intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers. Sa présidente, la psychiatre Rachel Baucher, estime que d'autres chantiers doivent être ouverts.
Nous avons des mesures qui concernent tout le monde. Par contre, il manque des pans entiers dans le protocole. C'est d'une part le temps de travail des praticiens et la prise en compte des contraintes des permanences de soins. Il va y avoir des évolutions significatives en matière de remédicalisation et de démocratisation de la gouvernance hospitalière.
Ce syndicat attend aussi une révision des grilles de salaire des personnels hospitalo-universitaires. Par ailleurs, toutes les organisations syndicales sont du même avis. La signature cet après-midi du Ségur de la santé n'est qu'une étape dans la transformation de l'hôpital public.
Merci à vous, Afia Kenich. Bruno Le Maire assurant ce matin chez nos confrères de RTL, le ministre de l'économie estime que la consommation est quasiment revenue à la normale après l'effondrement provoqué par la crise de la Covid-19. Bruno Le Maire qui a donné quelques indications sur le plan de relance économique qui doit être annoncé demain par Emmanuel Macron. Bonjour Pierre Neveu.
Bonjour.
Le plan de relance pourrait atteindre les 100 milliards d'euros.
Il y a un objectif stratégique, c'est l'emploi, explique Bruno Le Maire. Une ambition, l'accélération de la transition écologique, une méthode, la concertation. En quelques mots, le ministre de l'économie dessine là les grandes lignes de l'intervention présidentielle du 14 juillet et le discours de politique générale du Premier ministre mercredi. Des mesures concrètes sont attendues pour les 800 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Un plan de soutien massif à l'emploi des jeunes est déjà annoncé. Reste à savoir s'il se concrétisera par une exonération des charges ou par une prime à l'embauche. Les services de Bercy ont également travaillé sur un plan de relance estimé entre 50 et 100 milliards d'euros. Mesures qui entreront en application à la rentrée de septembre avec comme objectif la compétitivité des entreprises. Dès le début de cette crise sanitaire, Emmanuel Macron s'était engagé à une plus grande souveraineté en promettant une réindustrialisation du pays. Pour ce faire, Bruno Le Maire évoque une baisse massive des impôts de production, la contribution à la valeur ajoutée des entreprises est ciblée. C'est une taxe perçue par les régions que l'État promet de compenser. Mais là, il va falloir convaincre les élus locaux. C'est l'objet des concertations engagées ce matin à l'hôtel de Matignon avec Renaud Muselier et Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements et de l'Association des régions de France. Des mesures de solidarité seront également annoncées en faveur des ménages les plus démunis. Enfin, Emmanuel Macron ne pourra pas échapper demain à la question des retraites. La réforme est indispensable, assure aujourd'hui Bruno Le Maire. Il faut travailler davantage. Reste à en définir les critères, durée d'année de cotisation, âge pivot, rien n'est fixé. Le ministre de l'économie affirme que la réforme se fera dans l'écoute et la concertation. C'est le nouveau chemin promis par Emmanuel Macron.
Merci à vous Pierre Neveu. Et alors que ce matin Bruno Le Maire a encore indiqué que 800 000 emplois risquaient d'être détruits d'ici la fin de l'année avec la crise engendrée par la Covid-19, le cabinet Randstad, spécialisé dans le recrutement d'intérimaires, apporte une petite éclaircie. Dans une étude qu'il a réalisée et publiée aujourd'hui, on apprend que les intentions d'embauche ont retrouvé en juin leur niveau d'avant confinement. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine Maret.
Éclaircie donc sur le front de l'emploi, mais la prudence reste de mise.
Oui, c'est la flexibilité de l'emploi intérimaire permet aux entreprises d'embaucher rapidement dès que l'activité reprend. Au contraire, en cas de rechute, eh bien, ces derniers seront les premiers à reperdre leur travail. Alors concrètement, l'étude montre que sur les trois premières semaines de mai, le nombre d'offres s'est accru de 75%. En juin, on note aussi une reprise, mais qui reste inférieure de 25% par rapport à l'année dernière, à la même période. Ce qui s'explique d'une part par le climat d'incertitude des chefs d'entreprise, qui par prudence préfèrent encore attendre pour recruter définitivement. Et d'autre part, par les secteurs sous tension traditionnels en juin. Toutefois, l'étude laisse apparaître quelques signes encourageants à court terme, comme par exemple la stabilité du nombre d'offres d'emploi proposées en juin. Parmi les secteurs qui recrutent le plus en ce moment, les techniciens de maintenance, les commerciaux suivis par les conducteurs de poids lourds, signe que les entreprises repartent à la conquête de nouvelles parts de marché. Les développeurs informatiques et les agents immobiliers sont aussi des professions très demandées en ce moment, en particulier en Île-de-France qui concentre concentre la plus grande partie des sièges sociaux d'entreprise, avec aussi la peur de reprendre les transports qui s'estompent petit à petit en Île-de-France. Enfin, pour parler ou pas de sortie de crise, il faudra encore attendre le mois de septembre qui donnera le ton sur la fin de l'année, car rappelons que de nombreuses entreprises actuellement maintiennent leurs emplois grâce aux mesures de chômage partiel qui sont amenées à disparaître petit à petit.
Merci à vous Hakim Kasmi. La météo, du soleil partout, à peine quelques nuages sur l'est du pays, température très agréable, 19 degrés à Cherbourg, 27 à Paris, 30 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Brice Garcia, prochain journal à 18h avec Benoît Bouscarel.